comme commune forme. On aurait pu aussi prendre K comme commune terme, le nom russe de la troisième internationale de Lénine. Commune forme, en tout cas, pour évoquer la question de l'internationalisme. Comment ça s'est traduit, les différentes tentatives d'organisation à l'échelle internationale? Et puis, comment c'est pensé au départ par Marx? Et comment on peut voir les écarts qu'il y a entre une pensée et divers moments de son application?
On va commencer, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, à suivre un plan qui n'est pas le plan chronologique, qui est l'inverse du plan chronologique, c'est-à-dire partir de la dernière forme, celle du commune forme, pour remonter jusqu'à l'internationalisme en passant par les internationales. Alors, d'abord, très rapidement, pour le commune forme. Le commune forme est une forme totalement abâtardie de l'internationalisme, qui n'a même rien à voir avec l'internationalisme. Le commune forme, c'est le bureau d'information des partis communistes qui a été créé en 1947 et qui était la dernière organisation internationale. Mais elle n'avait d'international que le nom. Elle a essentiellement servi sur le plan extérieur à conduire la lutte après la guerre contre le plan Marshall, c'est-à-dire contre une forme de contrôle des États-Unis sur l'Europe, et sur le plan interne, l'existence des partis communistes, à dénoncer ce qui était appelé à l'époque le schisme yougoslave. Il fallait donc que Tito, vipère lubrique bien connu, soit détruit pour affirmer l'internationalisme. Bien. On se trouve à ce moment-là dans la période de guerre froide, qui est une période des plus difficiles de la modernité, où on voit un véritable glacis des pays socialistes et d'autre part un raidissement dogmatique que le commune forme justement véhiculera avec des doctrines comme les doctrines de Jdanov qui définissaient un art socialiste, le réalisme, etc., etc. Ce commune forme a comme caractéristique, me semble-t-il, de renoncer à toute pédagogie de la révolution au sein des partis communistes. Le commune forme mènera une lutte, oui, ce qu'il appelle la lutte pour la paix. Cette lutte pour la paix aura essentiellement le but de défendre l'Union soviétique, c'est-à-dire de resserrer les rangs des partis communistes autour de la grande Union soviétique. L'existence du commune forme s'effondre avec la scission que font les Chinois et la mort de Staline. Le 20e congrès qui voit le rapport Khrushchev sur la déstalinisation met fin au commune forme. Alors le commune forme a été le dernier avatar des internationales. Les internationales, il faut remonter à leur création. La première, celle qu'on appelle la première, c'est l'Association internationale des travailleurs, qui voit le jour en 1864, l'existence de cette internationale correspond à une volonté qui s'était fait jour dans les mouvements ouvriers et progressistes en Europe de disposer d'une instance qui leur permettrait d'échanger leurs expériences et éventuellement de déterminer une plateforme qui leur serait commune. Alors l'internationale se constitue de manière très libre. C'est-à-dire que les adhérents, les gens qui vont composer l'international, sont essentiellement non pas des partis, mais des mouvements. Et c'est ainsi qu'il pourra y avoir plusieurs mouvements d'un seul pays qui adhéreront à l'international. Alors l'international sera dominé par la lutte idéologique entre le marxisme et l'anarchisme. L'anarchisme ayant deux formes, celle des proudhoniens, qui représentent la délégation française, et ensuite celle des bakouninistes. Bon, mais cette internationale, par conséquent, jouera un rôle qui est véritablement un rôle de prise de conscience du mouvement ouvrier et de la nécessité, finalement, de passer à la pratique à partir du mot d'ordre qui concluait le manifeste « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». C'est ça, c'est cette formule qui va fonder l'international. Dès cette époque, l'international fera froid dans le dos à la bourgeoisie. On en a une illustration dans le Germinal de Zola, où Zola conclut son roman qui raconte l'histoire de Lantier et des rapports avec le représentant de l'international, qui est présenté comme un homme de l'ombre. Ça, cette histoire se reproduira après. Et où les dernières pages de Germinal, comme le disait, utilisent des métaphores biologiques pour montrer que l'international veut littéralement manger, digérer le bourgeois. Alors, ces pages de Zola, on se demande s'il les a pas écrites pour se faire peur à lui-même. La première internationale ne peut donc pas durer sous la forme où elle était. Et on verra apparaître en 1889 une deuxième internationale. La deuxième internationale est rendue possible par le fait qu'entre le moment où la première internationale se dissout, des partis se sont constitués sur des bases qui se réclament du marxisme. Il existe des partis. Et par conséquent, la deuxième internationale va prendre une règle tout à fait différente de la première. Elle va faire en sorte qu'un parti représente un pays. Cette internationale, dans laquelle Engels jouera un rôle tout à fait considérable, puisque nous nous trouvons là après la mort de Marx, et le chef de l'internationale, c'est Engels. On peut même dire qu'il en est l'âme linguistique, dans la mesure où Engels, qui maîtrise 10 ou 12 langues, sert d'interprète général aux gens qui composent cette internationale, qui n'avait pas, comme on l'imagine, de traduction simultanée. Alors, elle finira mal aussi, cette internationale. Elle sera tuée par la guerre de 14-18, parce que la guerre de 14-18 voit plus que des divergences, de véritables oppositions à l'intérieur de chaque mouvement ouvrier et entre les mouvements ouvriers qui se rallient à la politique de leur gouvernement, la fleur au fusil en Allemagne comme en France. Sur les décombres de cette internationale, qui sont encore fumantes, à travers les conférences organisées par Lénine en Suisse, à Zimmerwald et à Kiental, on va voir jeter les bases d'une troisième internationale, le Comintern, qui devra son existence à la création du premier État socialiste, c'est-à-dire la création de l'URSS. Et à ce moment-là, les différents partis socialistes, communistes ou progressistes seront sommés d'adhérer à un certain nombre de conditions élaborées par Lénine qui feront d'elles authentiquement des partis communistes par opposition avec les social-démocraties et les partis socialistes et qui par conséquent joueront le rôle moteur dans l'union des prolétaires du monde entier. Alors cette troisième internationale, elle s'achèvera en 1943. Là aussi, dans un contexte de guerre, elle donnera naissance, mais latéralement, à ce qu'on appelle la deuxième internationale ennemie, qui deviendra l'internationale socialiste, mais qui ne joue pas vraiment un rôle d'internationale, qui est une sorte de réplique réformiste à la troisième. Derrière tout ça, il y a bien évidemment la formule du manifeste, que je rappelais, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, et que Lénine avait complété par prolétaires de tous les pays et peuple dominé, unissez-vous. Peuple dominé, unissez-vous. Ce qui était un élargissement de l'internationalisme considérable, parce qu'il intégrait non seulement des partis de classe, c'est-à-dire se réclamant de la lutte de classe, mais des mouvements qui, eux, avaient un caractère nationaliste. Il s'agissait à ce moment-là de montrer comment, notamment dans les anciens territoires coloniaux, les bourgeoisies nationalistes elles-mêmes jouaient un rôle progressiste. Et ça, c'était la grande affaire de l'internationalisme. L'internationalisme avait pour mission, finalement, de se consacrer et d'apporter le message de la nécessité de la révolution mondiale dans tous les pays. Et c'est un vieux rêve, ça. C'est un rêve qu'on trouvait déjà après 1948, des gens comme Georges Sand, Leroux, Baudelaire se réclamaient de l'international. Victor Hugo se réclamait de l'international. Il se disait internationaliste. Parce que ces gens-là voyaient bien que quand ils analysaient les contradictions et la politique de leur pays, la nécessité de faire face au capitalisme, au rapport capitaliste de production, c'était effectivement une révolution. Alors peu importe qu'elle ait été tantôt conçue de manière précise, rigoureuse, c'est-à-dire sur des bases de classe, ou qu'elle ait été conçue de manière utopiste. Mais c'était ça. Le gros problème qu'on a eu avec l'internationale et qu'ont eu les partis des trois internationales, c'est le nationalisme. Parce que la proclamation d'internationalisme s'est toujours heurtée à des pratiques nationales, qui d'une part faisaient valoir qu'il n'y avait pas suffisamment d'intérêts communs à l'échelle internationale pour l'emporter sur les intérêts qui étaient nationaux. Alors il ne faut pas être surpris si ce sont les guerres qui ont fait éclater les internationales, parce qu'elles ont montré que les contradictions surgissaient entre les intérêts nationaux et les intérêts internationaux, surtout lorsque les intérêts internationaux se sont confondus avec les intérêts d'une puissance déterminée, savoir celle de l'Union soviétique. Cette histoire de la division entre internationalisme et nationalisme continue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on voit bien que dans le monde contemporain, la lutte anti-impérialiste exige un internationalisme nouveau. Or, les formes d'internationalisme qui sont candidates à cet internationalisme nouveau sont des choses comme l'altermondialisme, par exemple, qui sont des formes qui ne se sont pas encore détachées de la préoccupation nationale et qui surtout ne sont pas des formes de classe. On voit bien que dans le cadre de l'Europe, les débats en Europe, les difficultés se jouent entre la vocation d'une union des pays européens et puis les intérêts nationaux qui paraissent contradictoires. Non pas avec l'entité politique que formerait l'Europe, mais avec l'entité économique dont l'Europe ne serait que le masque politique. Ça se traduit par le thème du souverainisme dans un pays comme le nôtre. Hein, l'évocation de la souveraineté nationale. En fait, on voit que derrière tout ça, il y a des enjeux qui sont des enjeux de classe, des enjeux économiques, mais qui laissent, à mon avis, entièrement ouverte dans la nécessité de combattre les formes actuelles de la mondialisation, de créer un nouvel internationalisme qui devrait être un internationalisme de réseau, c'est-à-dire un internationalisme qui ressemblerait plus à celui de la première internationale qu'à celui de la seconde, par exemple.